Vous écoutez RTL.
Bon après-midi sur RTL.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hilke.
Bonjour à vous les curieux, c'est parti pour une heure d'histoire, d'aventure, d'anecdotes et de secrets dévoilés, forcément. Bonjour Thomas.
Salut Sidonie,
vous allez bien?
Tu vas bien?
Ouais, très
pleine
bien.
Forme. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est donc ensemble jusqu'à 15h sur RTL avec... Comme tous les jours, vous le savez, deux thèmes dans l'émission. On aime varier les plaisirs ici. Alors tout à l'heure, on vous embarque dans les coulisses du Paris-Dakar qui fête ses 40 ans. Les débuts en 1978, les histoires de bivouac, les drames aussi. On s'attaque donc au désert et à ses dangers vers 14h30.
Et tout de suite sur RTL, on plonge au cœur des énigmes de l'histoire de France.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Bonjour Jean-Christian Petit-Fils.
Bonjour.
Soyez
bonjour.
Le bienvenu, vous êtes historien, écrivain. Allez, une première énigme tout de suite pour se mettre dans le bain. Celle de la mort d'un grand écrivain, Émile Zola. J'ai choisi celle-là parce que je suis une fan d'Émile Zola et je ne savais pas du tout qu'il y avait un mystère autour de sa mort. Officiellement, il est mort comment ?
Alors, Zola, le dimanche 28 septembre 1902, revient de sa campagne avec sa femme, se couche. Et puis, le lendemain, les domestiques frappent à la porte, pas de réponse. Ils insistent, pas de réponse. Et donc, ils sont obligés d'enfoncer la porte et de voir l'écrivain gisant sur le sol et sa femme sur le lit, respirant difficilement.
Les deux sont morts ? Émile Zola et son épouse.
Zola, le médecin le constate immédiatement, il est mort. On arrive à réanimer Alexandrine, sa femme, mais on se doute qu'il s'agit d'une intoxication à l'oxyde de carbone. C'est un poêle qui ne fonctionne pas bien.
Et ce sera la conclusion du rapport d'autopsie. Que dit précisément le rapport d'autopsie ?
Alors, les médecins légistes conclu à une asphyxie accidentelle. Mais en même temps, un commissaire de police s'occupe de l'affaire, qui s'appelle Cornette, et il va nommer, parce que l'opinion commence à s'inquiéter, Zola c'est le grand écrivain, c'est le J'accuse, écrit 4 ans plus tôt, au moment de l'affaire Dreyfus, dans l'Aurore, et on se demande s'il ne s'est pas suicidé, il était dépressif, on se demande s'il n'y a pas eu un crime. Donc il y a une enquête qui est menée par le commissaire de police. Le commissaire nomme 2 experts en toxicologie, et 2 experts architectes pour voir ce qui s'est passé sur le toit avec ce poêle.
Alors, ils se déplacent au domicile des Zola. Quels tests font ces experts ?
Alors, les experts en toxicologie vont faire des essais avec le poêle. Ils vont enfermer dans la pièce 3 oiseaux, 2, 3 cochons d'Inde.
Oui.
Et puis, ils vont attendre le lendemain. Et ils s'aperçoivent que il y a 2 oiseaux qui sont morts. Les cochons d'Inde ne sont pas en très bon état, mais ils survivent. Et puis il y a un oiseau qui survit. Et donc en fait, il y a une faible dose de dioxyde de carbone. Donc c'est assez bizarre puisque Zola en est mort et est mort et bien évidemment d'une forte dose.
Et le temps apporte un rebondissement. 51 ans plus tard, 51 ans après la mort d'Émile Zola, un homme va parler à un autre homme. De qui s'agit-il et qu'est-ce qu'il confie ?
Alors, c'est l'enquête d'un grand reporter qui s'appelle Jean Bedel, dans le journal Libération, d'Acier de la Vigerie, qui fait état d'un témoignage d'un ancien employé de pharmacie qui s'appelle Pierre Aquin, qui est très malade, qui mourra le mois suivant, et qui a une confession à faire, disant, voilà, j'étais très lié avec un entrepreneur de fumisterie.
Donc il s'occupe des cheminées et des
qui
poêles.
S'occupe de cheminées, ouais. qu'il appelle Monsieur Z, il ne donne pas son nom. Et ça, donc cette confidence faite en 1928. Et voilà ce que disait cet entrepreneur de fumisterie. Zola a été asphyxié volontairement par moi et puis pour mon associé.
En quoi ? En représailles ? Pourquoi aurait-il
alors,
fait ce geste ?
Il dit simplement qu'il a profité des travaux de réfection de la maison mitoyenne,
ouais.
Et que lui et son compagnon ont bouché le conduit de cheminée. Et puis que le lendemain, ils l'ont débouché, ce qui permet de comprendre pourquoi cette expérience...
Ah, pourquoi les animaux ont survécu, d'accord.
Voilà, n'a pas été concluante. En 1978, donc la première fois on était en 53, en 78, Jean Bedel, dans le quotidien de Paris, révèle le nom de l'entrepreneur qui est mort en 70, et il donne le nom donc de Fumisterie, hein, c'est Jean Buronfos. Henri Buronfos.
Jean-Christian Petit-Fils vous a raconté cette affaire dans les énigmes de l'histoire de France aux éditions Perrin Le Figaro Histoire.
Alors c'est un livre qui est sous votre direction, et l'affaire est racontée par Alain Pagès.
Et tout à fait. Cette enquête, elle est donc relancée sur la mort d'Émile Zola, et elle est relancée en 1953.
Voilà, elle est relancée en 53, elle est complétée en 78 avec le nom de celui qui a donné qui a fait cette révélation. C'est un enfant naturel, mais ce qui est intéressant, c'est que Alain Pagès a poursuivi l'enquête, a recherché ce qu'avait fait c'est Henri Buronfos, oui. et il s'est aperçu que c'était un militant actif de la Ligue des Patriotes, une organisation de gauche, mais qui avait viré à l'extrême droite au moment de l'affaire Dreyfus, oui. Et voilà, donc il y a un motif politique peut-être. En tout cas, Buronfos n'a pas donné d'explication.
Alors, mais il y aurait peut-être un motif politique à ce qu'on suppose être l'assassinat d'Émile Zola.
La question c'est de savoir,
est-ce qu'il voulait le tuer ou est-ce qu'il voulait l'intimider ?
Est-ce qu'il voulait enfumer sa pièce et puis lui donner une leçon ? Oui. Est-ce qu'il voulait le tuer ? Est-ce qu'il ne s'est pas vanté aussi, est-ce qu'il n'a pas inventé cette histoire ? Ça paraît peu probable malgré tout. Donc on est encore dans l'incertitude. C'est une énigme qui n'est pas résolue.
Passionnante en tout cas.
Et tout de suite, bas les masques sur RTL, qui était vraiment le masque de fer. Restez avec nous les curieux.
L'homme au masque de fer est une créature fantomatique qui hante l'histoire française.
Sidonie Bonnec.
Le mystère a plané sur la véritable identité de ce prisonnier.
Thomas Hugues.
Au XVIIe siècle, le roi Louis XIV craint que son frère ne lui vole le trône et le condamne à un terrible sort.
Si votre défaut, c'est la curiosité,
il demande à ce qu'on lui enserre le visage dans un masque de fer.
Alors vous êtes bien sur RTL.
Les énigmes de l'histoire de France sont dans l'œil de notre curiosité avec l'historien et écrivain Jean-Christian Petit-Fils, le masque de fer. Donc on va consacrer plusieurs minutes à cette histoire, à ce mystère. Ça démarre quand d'ailleurs ? Tiens, qui révèle la première fois l'existence de ce masque de fer ?
Alors, on pourrait dire que ça commence en 1711, le 10 octobre 1711. La belle-sœur de Louis XIV, Élisabeth Charlotte, princesse palatine, duchesse d'Orléans, donc la femme de monsieur, frère du roi, écrit à sa tante Sophie de Hanovre « Un homme est resté de longues années à la Bastille et y est mort masqué. Il avait à ses côtés deux mousquetaires pour le tuer s'il ôtait son masque. Il a mangé et dormi masqué. » Et puis, on a un autre texte qu'on a retrouvé il y a quelques années, qui est antérieur, qui date de 1687, donc en plein règne de Louis XIV. C'est un petit texte, ce sont des nouvelles à la main, nouvelles ecclésiastiques, qui circulent donc sous le manteau, puisque ce n'est pas un journal autorisé, bien sûr, et qui parle de l'arrivée à l'île Sainte-Marguerite, donc en face de Cannes, de monsieur de Saint-Marc, qui aurait transféré de la prison de Pignerol aux îles, un prisonnier d'État, je cite, « Personne ne sait qui il est. Il y a défense de dire son nom et ordre de le tuer s'il le prononce. Il était enfermé dans une chaise à porteurs, ayant un masque d'acier sur le visage. »
Alors pendant 3 siècles, son identité, l'identité du masque de fer, va faire un peu rouler toutes les imaginations. Et Voltaire, c'est l'un des premiers finalement à se passionner pour l'énigme. Et là, une théorie sur l'identité de ce prisonnier masqué. Quelle est sa théorie ?
Alors Voltaire a été 2 fois à la Bastille. Il dira même, j'ai parlé à des gens qui l'ont servi, ce qui n'est pas exact parce qu'ils étaient tous morts à cette époque. Mais enfin, en 1751, il écrit le siècle de Louis XIV. Et dans le siècle de Louis XIV, il y a tout un chapitre qui est consacré à cette affaire. On a envoyé en mer de Provence, donc à l'île Sainte-Marguerite, un homme grand, de grande taille, avec un masque sur le visage. Il était servi par des domestiques, on lui procurait du linge fin. C'était quelqu'un de très, certainement très connu, mais on lui masquait le visage. Donc, évidemment, il va pendant très longtemps appâter son lecteur de livre en livre. Il va développer sa théorie jusqu'en 1771, dans les questions sur l'encyclopédie. Et il va charger son éditeur, en réalité c'est lui qui va écrire, une notice expliquant que ce prisonnier était un frère aîné clandestin de Louis XIV, donc né d'amour clandestine d'Anne d'Autriche.
Et donc il était masqué pour masquer la ressemblance avec Louis XIV.
Qu'on aurait masqué à cause de cette ressemblance. Alors le grand argument qui est donné, c'est ce goût pour le linge fin qu'aurait eu le prisonnier. Et on rappelle que Anne d'Autriche aimait beaucoup le linge fin.
Les énigmes de l'histoire de France, c'est le titre de ce livre qui s'est écrit sous votre direction, Jean-Christian Petit-Fils, aux éditions Perrin et Le Figaro Histoire. Vous avez mené vous-même l'enquête sur ce masque de fer. Qu'est-ce que vous avez découvert d'étonnant? C'est quoi l'info la plus étonnante pour vous sur cette histoire?
Alors, ce qui est le plus étonnant, c'est le décalage qu'il y a entre la légende, qui s'est construit autour de rumeurs, autour peut-être même d'autres prisonniers. On raconte que le prisonnier au masque avait jeté par la fenêtre de sa prison un plat d'argent sur lequel il y avait quelques mots écrits, qu'un pêcheur aurait retrouvé ce plat d'argent, l'aurait porté à Monsieur de Samar, le gouverneur, et le gouverneur l'aurait regardé en disant « Est-ce que vous savez lire ?» Et le pêcheur avoue, ma foi, monseigneur, je ne sais point lire. Il dit, tu es bien heureux de ne pas savoir lire. Alors, c'est en réalité une histoire qui vient d'une prison voisine où on avait enfermé des pasteurs protestants qui chantaient des psaumes et puis qui écrivaient sur de la vaisselle. Ça, alors, on le sait. Mais il y a un décalage entre l'histoire réelle, on peut en parler, la légende.
Alors, qui serait vraiment le masque de fer? Vous avez peut-être la réponse à cette question, Jean-Christian Petit-Fils, et la réponse, c'est pour dans quelques minutes sur RTL.
RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Et les énigmes de l'histoire de France, notamment celle du masque de fer. On est toujours avec l'historien Jean-Christian Petit-Fils. Alors, votre enquête vous mène où? Ce serait qui ce masque de fer?
Alors, donc, il y a un grand décalage, c'est ça qui est important de voir, entre les correspondances ministérielles, entre les comptes des prisons, et puis cette légende qui en fait un prince caché. Ouais. En réalité, le masque de fer, c'est ni un prince, ni un duc, ni un maréchal de France. C'est même un personnage de très basse extraction, puisque c'est un simple valet. On connaît son nom, il s'appelle Eustache d'Angers. Il est arrêté à Calais en 1669. Et puis, à partir de ce moment-là, il va rester 34 ans en prison, à Pignerol, au Fort d'Exil, à Sainte-Marguerite. Et puis, il meurt à la Bastille.
On sait pourquoi il était si bien traité, en un mot?
Eh bien, en fait, il n'était pas si bien traité.
Ça aussi, c'était une légende.
C'est son geôlier qui a fait croire qu'il était très bien traité. C'est son geôlier qui l'a masqué à partir de 1687 pour faire croire qu'il gardait quelqu'un de très important, alors qu'il venait de perdre les deux plus importants prisonniers qui étaient Fouquet.
C'était du marketing, le masque de fer, alors.
Génial.
Alors,
ouais, l'ego d'un geôlier.
Il faut se pencher sur la psychologie étrange, la vantardise du personnage.
Allez, une autre énigme à venir, Sidonie.
Ravaillac, dans un instant, a-t-il vraiment agi seul pour assassiner Henri IV? Vous saurez tout, les curieux.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais qui est donc ce mystérieux François Ravaillac?
Sidonie Bonnec.
Pourquoi ce colosse d'une trentaine d'années veut-il prendre le risque de tuer le roi Henri IV?
Thomas Hugues.
Ralliez-vous à mon panache blanc. La poule au pôle dimanche, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France.
Curieuse, curieux.
Tout le monde connaît ces formules. Ce sont celles du règne d'Henri IV, le bon roi, le plus populaire de tous les souverains de France.
Vous êtes chez vous sur RTL.
Quels sont les plus grands mystères de l'histoire de France? On voyage dans le temps avec l'historien Jean-Christian Petit-Fils. Et ce voyage nous mène en 1610, le 14 mai, rue de la Ferronnerie à Paris. Que se passe-t-il?
Alors il fait beau à Paris ce jour-là,
on
est à peu près 16 heures. Le roi a quitté le Louvre dans un carrosse ouvert, d'ailleurs sans vitres, avec quelques gentilshommes seulement. Il a refusé une escorte de garde du corps.
Il allait se balader, Henri IV?
Non, il se rendait à l'arsenal chez son ministre Sully, parce que le roi préparait une entrée en guerre de la France contre l'empereur Rodolphe II de Habsbourg, et en soutien à deux princes protestants. Mais en même temps, il escomptait faire un détour par Bruxelles pour aller chercher son égérie, la petite Charlotte de Montmorency, qui a été mariée au prince de Condé et dont il voudrait bien faire sa maîtresse.
Mais tout ça, il n'a pas pu le faire.
Elle a 15 ans, et lui en a 56.
Mais ses projets, évidemment, vont être avorté. Que se passe-t-il
alors,
ce 14 mai
après avoir pris la rue Saint-Honoré, le carrosse s'engage dans la rue de la Ferronnerie, s'arrête parce que deux voitures, l'une emplie de vin et puis une autre aussi de voitures commerciales, le carrosse doit s'arrêter devant la j'arrête deux fois, je crois, là, devant la maison du notaire Poutrin, à côté d'une auberge qui porte, écoutez bien, pour enseigne, au cœur couronné percé d'une flèche. Et c'est à ce moment-là qu'un grand gaillard, un individu à la barbe rousse, aux cheveux blonds fauves, vêtu de vert à la flamande, saute sur la roue arrière gauche du carrosse et porte trois coups sur Henri IV. Le premier coup porte sur la deuxième, entre la deuxième et la troisième côte, mais le deuxième est mortel, entre la cinquième et la sixième, et perce la veine cave, et le roi meurt immédiatement.
Que révèle l'interrogatoire de Ravaillac ? Comment va-t-il justifier son geste ? Que dit-il ?
Alors, Ravaillac, on s'aperçoit très vite que c'est un illuminé, un esprit dérangé, ouais. Un ultra-catholique qui déteste évidemment les protestants, et donc déteste le roi qui va entrer en guerre contre l'empereur catholique. Il a des illuminations, il voit des hosties qui s'élèvent dans l'air, il est fou. Il a voulu entrer chez les Feuillants, donc l'ordre des Feuillants, on s'en est débarrassé.
Ravaillac est exécuté et il va prononcer une phrase qui va semer le doute pour des siècles d'histoire.
Oui, on m'a bien trompé quand on m'a voulu persuader que le coup que je ferais serait bien reçu du peuple.
Ça sous-tend qu'il n'était pas seul, Ravaillac.
Voilà, ouais. Et pourtant, il a dit, et c'est pour répondre à votre question, il a dit 17 ou 18 fois qu'il n'avait pas de complice. Donc le mystère existe.
Qui aurait pu armer Ravaillac, si on essaye d'avancer et de répondre à cette question ?
En janvier 1611, il y a une petite femme pendant la messe, écoutée par Marguerite de Valois, donc la reine Margot, la première épouse d'Henri IV, une petite femme boiteuse, bossue, qui s'appelle Jacqueline Levoyer, femme d'un soldat qui est Isaac d'Escommand, qui s'approche de Marguerite de Valois et qui veut lui faire une révélation. Les deux femmes se parlent et elle accuse formellement le duc d'Épernon, compagnon d'Henri IV, et puis l'ancienne maîtresse du roi, Henriette d'Entragues, marquise de Verneuil, d'avoir fomenté un coup et d'avoir poussé Ravaillac. Elle dit elle-même qu'elle a hébergé Ravaillac quelques jours.
Qu'est-ce qui peut agrémenter cette thèse ? Effectivement, le lieu où Ravaillac a vécu, a dormi à Paris pendant les jours qui ont précédé l'assassinat ?
Alors, on a eu un procès et les minutes du procès ont été retrouvées il y a quelques années.
Ouais.
Chez les filles repenties pour diffamation parce qu'on sent qu'elle racontait des histoires, mais des historiens comme Michelet, comme Philippe Erlanger ont dit que cette thèse est quand même très intéressante et il y a probablement eu un très vaste complot impliquant le roi Philippe III d'Espagne, Marie de Médicis, la femme d'Henri IV, les Concini, les conseillers de Marie de Médicis, etc. Mais quand on regarde le procès, les minutes du procès, on s'aperçoit que cette femme d'Escommand est une mythomane. Elle raconte que on lui demande, montrez-nous Ravaillac. Comment était-il ce Ravaillac ? Alors elle nous montre un petit valet chétif à la barbe noire. Manifestement, elle ne le connaît pas.
Jean-Christian Petit-Fils, il y a une autre piste négligée, selon vous, la piste flamande. On vous la dévoile dans un instant sur RTL.
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Qui a tué Henri IV ? C'est l'une des énigmes que l'on raconte dans le nouveau 14-15h sur RTL avec l'historien Jean-Christian Petit-Fils, Ravaillac, qui assassine de trois coups d'épée. Le 14 mai 1610, Henri IV. Il y a plusieurs pistes, dont une qui a été négligée et qui vous intéresse, vous, l'historien, c'est la piste flamande. Qu'est-ce qu'elle dirait de l'assassinat d'Henri IV ?
Alors, il y a probablement eu, non pas un très vaste complot, comme on l'a dit, mais un complot restreint aux Pays-Bas espagnols. Ce qu'il y a, c'est que quelques jours après l'exécution de Ravaillac, on arrête un ouvrier maçon, porteur d'un long couteau, lui aussi, avec 200 pistoles, une somme considérable, sur lui, et des lettres montrant que, comme le dit un chroniqueur de l'époque, il était pensionné par l'archiduc. Et l'archiduc, c'est l'archiduc Albert de Habsbourg, le frère de l'empereur Rodolphe II, et donc le parent de Philippe III d'Espagne. Les Pays-Bas espagnols constituent une sorte de principauté autonome, avec la fille, comme co-souverain, la fille de Philippe II, l'infante Isabelle Claire Eugénie, et puis ce Albert de Habsbourg, des ultra-catholiques.
Quel intérêt ils avaient à faire disparaître Henri IV,
Albert de Habsbourg n'a plus d'armée. L'armée a été démobilisée à la suite de la trêve avec les Pays-Bas, les Provinces Unies à cette époque, donc devenues indépendantes, et le roi a menacé d'aller à Bruxelles. Donc, l'armée va pénétrer dans les Pays-Bas espagnols, et le roi est profondément choqué du comportement d'Henri IV, qui veut s'emparer de la femme d'un autre, une petite jeune fille de 15 ans, donc Charlotte de Montmorency, princesse de Condé, et il a considéré qu'il était légitime d'assassiner Henri IV. On a une lettre, j'ai trouvé une lettre du 23 mai 1610 de Jacob Enjoran, qui est l'ambassadeur de Suisse en France. Et il dit, il y a eu un complot monté par le comte de Salnov, donc, qui est un officier de la cour de Bruxelles, son adjoint Lamotte, il y a un commando qui est parti pour Paris, et un des membres de ce commando a dit qu'il ne manquerait pas le roi au Louvre. Voilà. Donc, la question, c'est de savoir si ce demi-fou de Ravaillac a rencontré ces gens, et c'est très possible, on a quelques éléments qui permettent de le penser. Ravaillac était vêtu à la flamande, si je le rappelle.
Donc encore un mystère relativement épais, même s'il s'est légèrement éclairci.
Voilà, donc il n'y a pas de certitude absolue.
Vous reviendrez si vous avez un scoop.
Voilà,
Jean-Christian Petit-Fils, en attendant
merci beaucoup.
Et d'autres histoires passionnantes à lire dans les énigmes de l'histoire de France. C'est aux éditions Perrin, Le Figaro Histoire. Merci à vous.
Vous écoutez RTL.